Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Parmi les grandes figures féminines de la Bible, Ruth la Moabite est particulièrement attachante par son humanité, son ouverture à l'autre et sa fidélité. Son histoire étonnante ressemble à une saga familiale. Elle est racontée dans un court livre de 4 chapitres qui est un des joyaux littéraires de la Bible hébraïque. Ruth apparaît aussi dans la généalogie de Jésus présentée dans l'évangile de Matthieu. Afin de donner envie à nos auditeurs de lire ou de relire ce texte magnifique, nous allons le parcourir à grands pas dans la Bible de Jérusalem. Le livre de Ruth commence par une famine qui pousse Noémie, la veuve d'Élimélec, a quitté Bethléem pour s'expatrier au pays de Moab. Ses deux fils, Mahlon et Kilion, meurent dans cet exil et laissent deux veuves, Orpa et Ruth, des Moabites qu'ils avaient épousées sur place. Noémie repart au pays de Juda et exhorte ses brus à ne pas la suivre, mais Ruth ne veut pas la quitter. Elles arrivent ensemble à Bethléem au début de la moisson des orges. Et nous poursuivons le récit au début du chapitre 2. Noémie avait du côté de son mari un parent. C'était un homme de condition qui appartenait au même clan qu'Élimélec. Il s'appelait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller dans les champs glaner des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Boaz demanda à celui de ses serviteurs qui commandait au moissonneur, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur répondit, « Cette jeune femme est la Moabite, celle qui est revenue des champs de Moab avec Noémie. Elle a dit, « Permets-moi de glaner et de ramasser ce qui tombe des gerbes derrière les moissonneurs. » Boaz dit à Ruth, « Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, mais attache-toi à mes servantes. » Alors Ruth, tombant la face contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui ne suis qu'une étrangère ?»« C'est qu'on m'a bien rapporté, lui dit Boaz, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et ton pays natal pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu, ni d'hier ni d'avant-hier. Que Yahvé te rende ce que tu as fait, et que tu obtiennes pleine récompense de la part de Yahvé, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu t'abriter. » Noémie dit à sa bru, « Qu'il soit béni de Yahvé, qui ne cesse d'exercer sa bienveillance envers les vivants et les morts. » Et Noémie ajouta, « Cet homme est notre proche parent, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Que sait-on, père Alain, sur la datation et l'origine de ce récit ? Dès le premier verset, l'auteur évoque la période des juges.
Oui, c'est toujours difficile de pouvoir trouver des datations précises, puisque au fur et à mesure que les récits sont sacralisés, ils effacent leurs sources, mais c'est très fréquent. Ce que l'on peut noter, c'est quand même un récit, vous l'avez évoqué dans l'introduction, un récit quand même très particulier qui met en valeur une femme qui fait partie des Moabites, c'est-à-dire la race la plus honnie du peuple juif, qui leur a fait beaucoup de misère jusqu'à tardivement. Donc, on peut trouver là qu'il y a un choix qui est quand même assez révélateur en mettant en valeur une femme qui vient de cette famille des Moabites, qui sont bon, descendants, on pourrait dire, du peuple hébreu au départ, dans l'Antiquité, mais qui se sont séparés et qui ont constitué un peuple d'opposition violente. Donc, il y a là quelque chose qui est très parlant. Et puis, d'autre part, évidemment, il y a cette dimension féminine du récit que nous avons... Vous avez lu le texte comme ça, et à la lecture, on n'entend pas tout, mais c'est vrai que c'est curieux. Les hommes tombent les uns après les autres, c'est-à-dire le mari de Noémie meurt, on ne sait pas pourquoi, les deux fils meurent, on ne sait pas pourquoi. On voit bien que c'est un récit très construit d'une certaine manière, et finalement ne reste que qui sont de ce peuple ennemi, toutes les deux. Et donc ça va évidemment donner naissance à ce récit, avec peut-être, alors pour boucler un peu cette petite introduction, cette idée étonnante que Bethléem, c'est de là que viennent donc ces hommes qui vont partir parce qu'ils ont plus de pain. Or, Bethléem en hébreu, ça veut dire la ville du pain. Ils vont partir et ce sera l'inverse. Ils vont aller dans un pays où ils vont trouver des ennemis, mais ils vont trouver de la nourriture. Et donc là, on touche déjà des problèmes qu'on va pouvoir peut-être un peu évoquer, mais de ce que c'est que la migration dans les deux sens, hein, parce qu'ils partent là-bas, puis après ils reviendront ici. Quand on a faim, l'idéologie disparaît souvent, on s'en aperçoit. Mais là, il y a beaucoup de dimensions qu'on pourra souligner ensemble.
Oui, alors justement, moi c'est ce qui m'a vraiment frappé. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça une sorte de migration de la faim, finalement. À l'aller, Noémie migre vers un pays complètement étranger, en plus, vous venez de le dire, un pays ennemi, parce qu'elle n'a pas d'autre choix pour survivre. Et au retour, c'est migre qui va aussi vers un pays étranger, qui ne va pas forcément bien l'accueillir, parce qu'elle est très liée, elle s'est liée quand même à cette Noémie, sa belle-mère finalement, et elles sont dans le malheur toutes les deux. Et alors après, elles vont être accueillies par ce fameux Boaz.
Alors c'est là qu'on peut souligner quand même une dimension qui a été reprise par exemple le livre des Proverbes, la cite comme un modèle, une femme de valeur qui la trouvera. Et lorsque Boaz la rencontre, il lui dit « Tout le monde chez nous sait bien que tu es une femme de valeur ». Donc ça veut dire qu'on a dépassé les critères identitaires, on est dans une autre dimension. Et c'est un peu, et certains commentateurs juifs l'ont développé, c'est un peu Abraham féminin, c'est-à-dire quelqu'un qui entend une parole, qui migre, va vers ce pays et qui va faire une aventure extraordinaire. C'est un choix et ça reflète sans doute, vous me demandiez tout à l'heure à quelle époque, c'est sûr que c'est à une époque de crise. Et là, le fait d'avoir osé mettre en valeur une femme moabite, c'est quand même extraordinaire parce que on aurait pu trouver des femmes juives. Non, on a mis en valeur cette femme, peut-être justement dans un moment où la violence était forte entre les deux groupes et on a voulu montrer que l'humanité n'est pas quelque chose qui se décide comme ça pour des raisons d'histoire, mais qui a aussi la valeur humaine de chaque personne.
Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que Ruth s'est en quelque sorte convertie au Dieu d'Israël, à la religion juive, qui a abandonné peut-être sa propre religion moabite.
C'est clair qu'elle rejoint le peuple juif. Elle rejoint...
Y compris dans la foi.
Dans la foi, ce n'est pas précisé là, mais elle va entrer dans la généalogie, puis elle va donner naissance, on verra ça tout à l'heure, à des enfants qui vont faire partie des héritiers, des rois d'Israël. Donc on est dans une dynamique... Oui, très subversive. Ça, c'est la force de la Bible, de temps en temps, d'inscrire ou d'accepter des textes qui pourraient sembler scandaleux pour des gens qui sont très identitaires et qui mettent en valeur une personne qui n'est pas juive et qui, au contraire d'autres, a une valeur humaine extraordinaire et une figure qui va jusqu'au bout de son voyage, un voyage spirituel, avec sa belle-mère, dans une fraternité extraordinaire entre ces femmes. C'est une histoire de femmes. Il n'y en a pas énormément d'histoires de femmes comme ça. C'est beau.
Il y a un choix qui est fait quand même à ce moment-là, avec effectivement cette affection qu'elle porte à sa belle-mère. Mais sa sœur, Oprah, ne fait pas le même choix. Elle rebrouche chemin et elle retourne à Moab.
C'est un peu logique. C'est-à-dire, c'était la logique, au fond. Son mari était décédé. Elle retournait chez elle pour trouver un autre mari qui soit de sa race, et de faire des enfants. Donc c'est la logique. Mais du côté de Ruth, c'est autre chose. Ruth a une autre vision. Elle s'est attachée déjà à ce peuple juif, puisqu'il va oser retourner dans ce pays où elle sait qu'elle va trouver des ennemis, mais en même temps, peut-être une histoire. C'est une migration spirituelle. C'est à la fois, vous l'avez dit tout à l'heure, une aventure humaine. Quand on veut manger, parfois il faut partir. On le voit bien avec les migrants d'aujourd'hui. L'idéologie s'efface à ce moment-là. Et là, ça sera la même chose. Elle va revenir parce que Bethléem a retrouvé sa vigueur et sa nourriture, et donc elle va aventure nouvelle qui va naître avec elle.
Avec une prise de risque, parce que sa sœur, finalement, en retournant à Moab, elle a plutôt joué le retour au pays, se marier chez elle, etc. Dans Ruth, il y a une prise de risque, malgré tout, même si elle est liée à cette belle-mère qui est du cru, qui est du pays où elle retourne.
Oui. C'est évident que c'est un récit court. C'est ça la force, au fond, d'avoir condensé en 4 chapitres, c'est très court, une aventure, mais qui a été d'abord l'œuvre d'un homme juif qui a voulu ouvrir sur des perspectives plus audacieuses et qui, en définitive, va conduire beaucoup plus loin qu'on l'aurait pensé, puisque on sait que la généalogie de David va être la généalogie à partir de Ruth. Donc c'est intéressant.
Alors justement, on est effectivement dans cette question de la descendance qui obnubilait quelque part Noémie, parce qu'elle avait pas eu, elle avait eu ses deux fils avaient disparu, donc la lignée était interrompue. Il fallait pour elle trouver une solution, Noémie a donc Ruth avec elle pour essayer de résoudre ce problème. Et il y a donc cette rencontre avec Boaz qui peut-être pour elle représente une opportunité incroyable. Alors Je propose qu'on poursuive de lire un extrait du texte, si vous voulez bien. Noémie, sa belle-mère, dit à Ruth : Ma fille, ne dois-je pas chercher à t'établir pour que tu sois heureuse ? Boaz n'est-il pas notre parent, lui dont tu as suivi les servantes ? Lave-toi donc et parfume-toi, mets ton manteau et descends à l'air, mais ne te laisse pas reconnaître par lui avant qu'il ait fini de manger et de boire. Boaz mangea et but, puis le cœur joyeux s'en alla dormir auprès du tas d'orge. Alors Ruth s'en alla tout doucement, dégagea une place à ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, l'homme vit une femme couchée à ses pieds. « Qui es-tu ? » dit-il. « Je suis Ruth, ta servante, dit-elle. « Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car tu as droit de rachat. « Béni sois-tu de Yahvé, ma fille, lui dit-il. « Ce second acte de piété que tu accomplis l'emporte sur le premier. Et maintenant, ma fille, sois sans crainte. Tout ce que tu me diras, je le ferai pour toi, car tout le peuple à la porte de ma ville sait que tu es une femme parfaite. Toutefois, s'il est vrai que j'ai droit de rachat, il y a un parent plus proche que moi. Passe la nuit ici, et au matin, s'il veut exercer ton droit à ton égard, c'est bien qu'il te rachète. Mais s'il ne veut pas te racheter, alors Yahvé vivant, c'est moi qui te rachèterai. » Lorsque Ruth rentra chez sa belle-mère, celle-ci lui dit « Qu'en est-il de toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. « Ma fille, reste au repos, lui dit Noémie, jusqu'à ce que tu saches comment finira cette affaire. » Père Alain, Noémie a un comportement quand même un peu étrange dans cette affaire-là. On a l'impression qu'elle la pousse dans la couche de Boaz.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un peu classique. Quand des enfants ne sont pas venus, c'est important de trouver une descendance. C'est vrai pour tous les peuples, peut-être plus aujourd'hui, par exemple, quand on entend ce qui se dit en Chine, par exemple, le fait que les Chinois ont absolument besoin d'avoir des enfants, tous les moyens sont bons. Et ici, c'est important de donner une descendance à Ruth et à ce mari qui est mort, et donc trouver quelqu'un qui puisse donner cette descendance qui manque pour le moment et qui va devenir un peu un vrai roman, un roman magnifique dans cette rencontre entre les deux extrêmes, au fond. D'un côté, un vrai juif de Bethléem, et puis de l'autre, une Moabite de cette race des pêcheurs. Et c'est dans cette rencontre, au fond, que va naître une descendance magnifique. On pourrait dire, les voies de Dieu sont imprévisibles. Et ce petit livre, à lui tout seul, il dit beaucoup de choses, finalement, au cœur même de la Bible. Il est beaucoup plus court que la plupart des autres. Mais il y a là un enseignement qui est très beau, bien sûr, puisque on sait jusqu'où ça nous conduit.
Et alors, Bose, finalement, il fait déjà un peu partie de la famille, mais c'est étonnant aussi qu'il n'hésite pas finalement beaucoup. Il est même attiré par cette femme de Moab, qu'il ne connaît pas. Bon, il sait qu'elle a été amenée par sa belle-mère, etc., mais il ne sait rien d'elle.
Il sait que c'est une femme de grande qualité.
Il le dit d'ailleurs,
oui. Il le dit, et sa réputation est très connue, et en même temps, il sait quelque chose de mystérieux qui est le fait que cette femme qui faisait partie d'une famille mauvaise réputation, d'une certaine manière, va rentrer dans le cercle le plus restreint et va engendrer un enfant qui va faire partie des ancêtres de David. Donc on est vraiment dans une histoire magnifique, comme un roman magnifique qui se termine, mais au-delà même de l'idée de roman, il y a surtout l'idée de la grande fraternité humaine, quoi. C'est-à-dire cette idée que ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est pas sa race, ce n'est pas son pays, ce n'est pas son origine, mais ce qui fait la valeur, c'est son humanité. Et ici, on le voit bien, des deux côtés, au fond, ce sont des grandes figures humaines qui nous sont données à voir, et une leçon, bien sûr, qui nous ouvre sur la dimension élargie, on pourrait dire universelle. On pourrait évoquer, bien sûr, aujourd'hui, les conflits entre les Palestiniens et les Israéliens. Ça serait une application qu'on pourrait imaginer. Il y a des mariages en Israël entre Palestiniens et Israéliens. Ça veut dire que la vie continue. Il y a des signes qui sont toujours donnés. Et là, l'histoire de Ruth est évidemment un modèle magnifique pour nous.
Alors la scène... La scène importante, justement, de parler de ce mariage, Boaz prit Ruth et elle devint sa femme. Il alla vers elle. Yahvé donna à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent alors à Noémie, « Béni soit Yahvé qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui de quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit proclamé en Israël. Il sera pour toi un consolateur et le soutien de ta vieillesse, car il a pour mère ta bru qui t'aime, elle qui vaut mieux que pour toi que 7 fils. » Et Noémie, prenant l'enfant, le mit sur son sein, et ce fut elle qui prit soin de lui. Les voisines lui donnèrent un nom, elles dirent « Il est né un fils à Noémie », et elles le nommèrent Obed. C'est le père de Jessé, père de David. C'est extraordinaire, ça.
Alors justement, on peut boucler un peu sur cette ouverture. C'est l'ouverture de la lecture des Juifs, c'est-à-dire David, le grand David, est issu de cette femme qui était une de celles qui étaient les pires ennemies d'Israël. Quelque chose s'est noué là, qui a dépassé les conflits, tout ce que l'on peut imaginer, et donc David. Mais nous, chrétiens, nous avons une autre interprétation prolongée d'une certaine manière, puisque dans la généalogie de Jésus, puisque Jésus descend de David, ça veut dire que Ruth est citée parmi les ancêtres de Jésus, et donc c'est évidemment un lien très fort qui est posé là dans la généalogie, le mystère de l'humanité de Jésus, un homme qui est donné aux hommes à travers des hommes et des femmes qui n'étaient pas nécessairement des gens parfaits, mais qui étaient des gens de différentes cultures et qui, au fond, représentaient une humanité déjà universelle que le Christ va, on pourrait dire, remplir dans toute sa vie et va nous transmettre à nous les chrétiens.
C'est vrai que quand on lit la généalogie qui est rapportée dans l'évangile de Matthieu, c'est pas de la ligne parfaite, hein, la généalogie. On voit qu'il y a des écarts, que c'est compliqué, qu'il y a eu des pièces rapportées, comme on pourrait dire, etc. Oui, et Ruth en fait partie d'ailleurs.
Et pour nous, c'est une façon aussi de nous montrer que l'humanité de Jésus, c'est une humanité réelle, c'est-à-dire il vient de descendance, de différentes origines, d'une certaine manière, certaines pas des saintes, certaines même pécheresses, mais c'est ça, cette humanité que Dieu nous donne dans cette grande filiation-là que nous évoquons à travers la grande figure de Ruth.
Alors je crois que nous pouvons conseiller vivement à nos auditeurs de relire ce magnifique petit livre qui est très court finalement, qui est magnifique, qui est très poétique. C'est vraiment à relire. Mais nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir aidé à découvrir ou redécouvrir ce magnifique livre de Ruth. Merci à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.